Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être en direct au Salon de l'Agriculture sur le stand de la MSA, notre partenaire. Une excellente raison, le Salon de l'Agriculture, pour parler de l'enseignement agricole. Nous allons en décrire les spécificités et donc une en particulier, l'éducation socio-culturelle, un dispositif qui depuis 51 ans fait le lien entre culture et agriculture. Invitée, une enseignante, Michèle Lision, bonjour. Vous êtes enseignante et animatrice, c'est comme ça qu'on dit, d'éducation socio-culturelle au lycée agricole de Roufac, c'est dans le Haut-Rhin. Nous avons également avec nous un agriculteur que je salue, bonjour.
Bonjour.
François Tabuy, vous êtes le premier agriculteur à venir dans Rue des Écoles. Vous venez de Haute-Savoie et vous produisez du...
Du reblochon, voilà.
Voilà, c'est mon fromage préféré, mais c'est pas uniquement pour ça que je vous ai invité. Vous avez des choses à dire sur l'éducation socio-culturelle. Également avec nous, Philippe Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'enseignement et de la recherche, DGER, au ministère de l'Agriculture, car c'est bien du ministère de l'Agriculture dont dépend l'enseignement agricole. Enfin, dans notre focus, en fin d'émission, nous écouterons le photographe Charles Frégé, aujourd'hui exposé dans le monde entier pour ses travaux sur les communautés et leurs uniformes. Pardon. Il est aussi passé par l'enseignement agricole et il y mène aujourd'hui d'ambitieux projets artistiques avec des élèves. Mais nous commençons, comme en est l'usage dans Rue des Écoles, par l'éducation et son actualité. Davantage l'éducation nationale, on va l'entendre. Bonjour Marie-Caroline Missire.
Bonjour Louise.
Alors au programme, chez vous.
Alors l'éducation dans la campagne présidentielle, de la violence dans les lycées et l'appétit des fonds d'investissement pour l'école.
Une rubrique en partenariat avec le magazine L'Étudiant, dont faut-il le rappeler, vous dirigez la rédaction. Allez, ça commence tout de suite. Premier sujet, un bilan de la refondation de l'école.
Et vous vous souvenez, Louise, quand tous les acteurs de l'école se sont réunis en Sorbonne en 2012 pour lancer la grande concertation qui devait donner lieu à la loi de refondation de l'école. On était donc en 2012, tout le monde s'aimait, se tenait par la main. Et 5 ans plus tard, cet esprit de concorde éducative s'est tu et la loi de refondation suscite pas mal de réserves, y compris dans le propre camp du gouvernement. En témoigne la seconde livraison du rapport du comité de suivi de la loi sur la refondation, présidé par le député socialiste Yves Durand. Le ton y est assez mordant et deux instances sont particulièrement visées par les parlementaires. Le CSP, le Conseil supérieur des programmes, qui, on s'en souvient, a cristallisé les critiques, les polémiques sur la réforme du collège. Et un autre conseil créé par la loi, c'est une instance en charge de l'évaluation du système scolaire, le CNESCO. Et le rapport pose la question qui fâche, celle de l'indépendance du CSP par rapport à la ministre en place. Même régime pour le CNESCO, du coup trop indépendant des organes d'évaluation traditionnels du ministère.
Alors trop indépendant, je serai la directrice du CNESCO, Nathalie Mons, invitée dans Rue des Écoles il n'y a pas longtemps. Je prendrai cela comme un énorme compliment. Je me demande comment on peut être trop indépendant. J'ajoute que les études indépendantes, dans leur diversité, devraient être considérées comme précieuses pour nous, journalistes, et puis pour les citoyens. Mais je vous laisse continuer, Marie-Caroline.
Vous avez raison, c'est assez surprenant. Bon, le rapport propose de remplacer ces deux instances par une seule agence indépendante, tout de même, équivalente au Conseil supérieur de l'éducation, et qui pourrait choisir les thèmes et les partenaires des études menées, des besoins de l'éducation, préconiser des formations, organiser la réflexion critique, les consultations, avec des représentants de la société civile et du monde économique. Et également, il serait chargé d'évaluer les programmes et les formations. Très bonne idée, mais cette agence ressemble trait pour trait au Haut Conseil de l'Éducation, mis en place par la loi de 2005 et supprimé par la loi de refondation, justement. Vous me suivez ?
Oui.
Bon, pour le dire autrement, on réinvente carrément la roue.
Autre sujet, une petite étude sur le vote des enseignants.
Des enseignants qui se disent déçus du Parti socialiste selon une enquête du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Il y a un désaveu clair du Parti socialiste chez les enseignants, échaudé par le quinquennat de François Hollande et peu convaincu de la crédibilité des propositions de Benoît Hamon. C'est Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, qui parle dans une interview à l'agence AEF. La population enseignante reste quand même majoritairement de gauche, à 63%.
Quand même.
À noter, à 7% des intentions, le vote frontiste a doublé depuis 2012 et Emmanuel Macron est en pole position chez les profs à 29% des intentions de vote quand Benoît Hamon est à 25%.
Ah oui, mais 63% parce que vous comptez Emmanuel Macron à gauche, hein, Marie-Caroline.
Comme vous voudrez. Emmanuel Macron qui ne propose toujours pas grand-chose sur l'école. Et oui, vous êtes comme moi, Louise. Nous avons nos paires de jumelles braquées sur le QG du candidat Macron. Et l'on ne voit toujours rien venir. Quelques indications dans ces dernières déclarations. Les communes qui souhaitent abandonner la réforme des rythmes scolaires auront toute latitude pour le faire si Emmanuel Macron est élu. Et puis le candidat est favorable à l'autonomie des établissements. On a hâte de vous le faire entendre, car semaine après semaine, on les entendra dans Rue des Écoles.
Oui, tous les candidats. Jeudi, c'était Jean-Luc Mélenchon qui a abordé le sujet éducation assez longuement. Il ferraillait avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dans l'émission politique de France 2. Comme on a dit qu'on vous ferait entendre tous les candidats, on va vous faire écouter un petit extrait de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon jeudi soir.
Je suis partisan du fait que dans les classes de maternelle, il y a toujours deux enseignants par classe. Parce que c'est le moment qui est décisif pour la socialisation des petits, et surtout quand ils viennent de familles où on n'a pas assez de temps pour s'occuper de tout le monde. Okay. Et maintenant, troisième niveau de mon intervention. Je voudrais que l'on comprenne qu'il faut varier les formes pédagogiques de l'enseignement. Donc, je voudrais développer d'une manière extrêmement importante le réseau des actuels lycées professionnels. Vous en avez fermé du temps, M. Sarkozy dirigeait 158, et M. Hollande est passé par là-dessus, et nous en sommes maintenant à plus de 170 qui ont été supprimés.
Un candidat qui promet aussi d'augmenter tous les enseignants s'il était élu. On reconnaît également la parole de l'ancien secrétaire d'État à l'enseignement professionnel, Marie-Caroline.
Et puis politique toujours, on a noté le plan média de Rockstar qui entoure le livre de Najat Vallaud-Belkacem, « La vie a plus d'imagination que toi », avec signature dans les deux plus grandes facs. FNAC de la capitale. On se dit qu'elle aurait fait une excellente candidate. Et vous l'avez lu ce livre, Louise ?
Oui, alors drôle de bouquin, une autobiographie très émouvante. Hein, d'un côté, je défie quiconque de rester insensible au parcours d'une fillette née dans une famille très modeste, dans un village du Rif au Maroc. Elle le raconte vraiment à la première personne. Un parcours spectaculaire avec le récit de son concours pour Sciences Po à la maison des examens. Elle y va en train, en RER, son père l'attend au café. Dans ce livre, également un hommage appuyé à l'éducation populaire, au petit bibliobus à Amiens, ou encore au théâtre à l'école qui a joué un rôle décisif pour la ministre. Mais dans ce livre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique, pas une page sans que soient rappelés les projets, les politiques mises en place par Najat Vallaud-Belkacem sur le plan local et national. Elle défend son action bec et ongle de manière très appuyée.
Et à vous entendre, Louise, l'ouvrage est peut-être la rampe de lancement pour des ambitions que la rue de Grenelle ne suffit plus à contenir. Et justement, dans une interview au journaliste youtubeur Alex Darmon, la ministre dévoile ses ambitions présidentielles. Ça t'a porté chance de succéder à Benoît Hamon au ministère de l'Éducation ? Tu crois que ça peut te porter chance de lui succéder à l'élection présidentielle ? L'interroge le journaliste. Je préférerais lui succéder comme présidente, en fait, tant qu'à faire, répond Najat Vallaud-Belkacem. Et pour finir, elle le dit, c'est l'histoire qui le dira.
Oui, nous aussi, on va tutoyer nos invités, Marie-Caroline. Mais vous vous voyez à l'antenne, hein, pas dans la vie. En attendant 2022, un autre sujet, les lycéens étaient dans la rue cette semaine à Paris, mais aussi à Montpellier. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Charlotte Coutard de France Bleu Roussillon, parole de lycéens.
Les violences policières, voilà, c'est inacceptable. Quand on se fait contrôler juste qu'on est un arabe ou un noir. Par exemple, on va à la plage, on se fait contrôler systématiquement. On est en survêt avec une sacoche, on se fait contrôler. Les policiers ne nous connaissent même pas, mais ils nous contrôlent, ils nous insultent, ils nous crient dessus, alors qu'on n'a rien fait, voilà. Moi, j'ai rien brûlé, j'ai rien cassé, je suis là, je manifeste sans faire n'importe quoi. Ces personnes-là, elles sont assez bêtes, stupides, je dirais même. De casser, c'est pas le meilleur moyen de se faire entendre, surtout qu'après, on est stigmatisé, ils pensent qu'on est venu là pour rien que foutre le bordel, entre guillemets. Et c'est surtout ça qu'on n'aime pas, nous.
Une quinzaine de lycées parisiens étaient mobilisés en solidarité avec Théo, ce jeune homme victime présumée de violences policières. La mobilisation a été orchestrée via une série d'appels du MILI, mouvement interlutte indépendant, nous apprend l'étudiant.fr, relayé sur les réseaux, puis dans les salles de classe. Bon, pour l'heure, la mobilisation est faible. Ça n'a pas empêché les habituels feux de poubelle et des violences plus graves, avec un proviseur adjoint sérieusement blessé. Un extincteur avait été jeté dans sa direction. contre-productif quand on veut dénoncer les violences.
Enfin, et je demande aux auditeurs d'ouvrir grand leurs oreilles, vous nous alertez, Marie-Caroline, sur la privatisation, oui, de l'éducation en France.
Oui, EducPro, le site de l'étudiant pour les professionnels de l'éducation, organisait jeudi une conférence sur les fonds d'investissement dans l'éducation. Et je voulais en parler à ce micro parce que nous sommes au début d'un mouvement de transformation profond de notre système éducatif. Depuis une petite dizaine d'années, ces fonds, dont les plus connus sont Apax Partners, Providence, Lauréat, Carrière, ont investi dans l'enseignement supérieur privé, majoritairement, en rachetant des écoles avec des montants d'acquisition de plusieurs centaines de millions d'euros. Et selon la financière Martine Depas, à l'image du secteur de la santé, les utilisateurs sont maintenant prêts à payer et à payer cher pour l'éducation. Les utilisateurs, ce sont les parents. L'enseignement supérieur privé offre des garanties de rentabilité rapide avec des droits d'inscription à 10 000 euros renouvelés sur 5 ans. Et cela aiguise l'appétit de ces fonds. Mais ces mêmes fonds seraient en train de devenir un marché désormais mature. Ces fonds d'investissement se tournent désormais vers le primaire ou le secondaire, où ils anticipent une croissance exponentielle de l'enseignement privé hors contrat. En cause, une insatisfaction grandissante à l'égard du système public et la saturation de l'enseignement privé sous contrat, majoritairement catholique. Dans ces écoles entièrement privées, donc, qui intéressent ces fonds d'investissement, les pédagogies alternatives type Montessori ou autres sont aussi un produit d'appel pour les parents. Et en croire les analystes financiers, le secondaire est vraiment dans le viseur pour de prochains investissements.
Voilà, c'est peut-être ça aussi, l'avenir de l'éducation. Et du coup, Marie-Caroline, je vous indique que dans la revue du Crieur, revue éditée par Mediapart, mais disponible en kiosque, on peut lire un article de l'enseignante Laurence Decoq sur ce sujet. Éduquer autrement à travers un enseignement spécifique, parler d'art, de sociologie, former l'esprit critique en mettant les élèves en situation de mener des projets concrets ou en leur demandant d'analyser les médias et leurs discours, faire des émissions de radio avec eux, monter des expositions avec des artistes, des concerts. Tel est le projet de l'éducation socioculturelle. Un dispositif, pas vraiment une discipline, qui a 51 ans et qui n'existe que dans l'enseignement agricole. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui au Salon de l'agriculture. Alors ça en fait la singularité, d'une certaine manière, de cet enseignement agricole. C'est un grand projet qui a aussi évolué dans le temps. Nous allons le détailler avec nos invités. Mais d'abord, Philippe Vincent, puisque vous êtes à mes côtés et puisque vous vous occupez de diriger cet enseignement agricole au ministère de l'Agriculture, je voulais qu'on rappelle quelques chiffres sur l'enseignement agricole, combien cela représente d'élèves, d'établissements en France.
Alors l'enseignement agricole, c'est une mission historique du ministère de l'Agriculture. Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est 145 000 élèves, 35 000 étudiants, 30 000 apprentis et 245 000 stagiaires de la formation professionnelle continue. Donc c'est beaucoup de monde. Et pour les élèves de la 4e au BTF, c'est 145 000 élèves, un chiffre assez stable en fait. Alors, il ne faut pas se
rapprochez-vous
tromper
un tout petit peu
sur
du
cette
micro, merci.
Stabilité des chiffres, parce que la situation évolue beaucoup. D'abord parce que le métier d'agriculteur évolue énormément, et en plus parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui émergent et qui sont traités dans l'enseignement agricole. Ce sont tous les métiers de l'environnement, les métiers des services à la personne, les métiers du tourisme et de l'agroalimentaire. En termes d'établissements, on a 800 établissements, en gros un tiers public et deux tiers privés, donc ça c'est aussi une particularité. Et on a 15 000 personnes salariées du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié des personnels du ministère de l'Agriculture sont dans l'enseignement, ça c'est trop peu connu, et presque la moitié du budget, donc 1,7 milliard, c'est les missions enseignement et recherche. Et en plus, c'est les crédits qui ont été en augmentation, notamment pour accompagner le projet d'agroécologie cher à Stéphane Le Foll, qui a marqué les dernières années et qui est très important pour, je dirais, remettre les exploitations agricoles au cœur des établissements et vraiment faire en sorte que ces métiers pour les jeunes sont vraiment des métiers du vivant fondés sur l'exploitation agricole.
Car ces exploitations comptent, ces lycées, pardon, comptent des exploitations agricoles, c'est toujours le cas, mais ne forment pas que de futurs agriculteurs. Vous l'avez évoqué, il y a même des bacs généraux, je crois, dans certains lycées agricoles. À quels autres métiers on peut penser quand on s'engage dans l'enseignement agricole, ou à quel métier on peut avoir envie de faire et auquel mène l'enseignement agricole?
Voilà. Alors effectivement, l'enseignement agricole, c'est un 4 quarts, avec 4 quarts un peu inégaux. Il y a un petit quart, c'est l'enseignement général. Un gros quart, c'est les métiers d'agriculture, donc agriculteurs et puis tous les métiers qui sont liés. Il y a près de 20% aujourd'hui, c'est les métiers liés à l'environnement, au paysage, à la filière bois, à la gestion des déchets, donc des métiers très concrets pour les territoires. Et puis, c'est près de 40% pour tout ce qui est service à la personne, donc pour les jeunes enfants, jusqu'aux personnes plus âgées. Donc, c'est des métiers très, très différents dans ces différents établissements.
D'ailleurs, Marie-Caroline Missir, l'étudiant, a consacré un dossier cette semaine à l'enseignement agricole et à ses débouchés.
Absolument, un dossier que vous pourrez retrouver sur notre site web et où on essaye de montrer à la fois que les métiers ont beaucoup évolué et que l'enseignement agricole ne correspond pas forcément à l'image qu'on peut en avoir. On donne par exemple 5 bonnes raisons de choisir les métiers de l'agriculture. On vous explique en fait la vie d'un chef d'atelier dans le machinisme agricole. On revient sur une vie d'étudiant à l'ISSA avec une jeune fille qui s'appelle Geneviève et qui nous parle de ses études très connectées autour de l'entrepreneuriat. Et puis on vous parle des BTSA, les BTS de l'enseignement agricole, qui sont aussi mal connus. On a un reportage dans une maison familiale et rurale. Et je crois que globalement, ce qu'il faut expliquer aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que l'enseignement agricole propose des pédagogies assez alternatives depuis très longtemps, on ne le dit pas assez. Et ces jeunes peuvent trouver dans le cadre de l'enseignement agricole à la fois un contact avec la nature et puis surtout de nouveaux métiers qui n'existent pas forcément encore, auxquels ils se forment. Il y a des start-upers dans l'enseignement agricole, il y a de l'entrepreneuriat. Et c'est tout ça qu'on a voulu montrer pour rénover un petit peu l'image de cet enseignement et des métiers qui peuvent y mener.
On sent que vous avez appris beaucoup de choses, hein, Marie-Caroline. Vous avez parlé de pédagogie alternative. Je me tourne vers l'enseignante qui est avec nous. Michèle Lision, je le disais, vous êtes enseignante animatrice de SC. Ça vous va quand on parle de pédagogie alternative pour l'enseignement agricole? Vous y retrouvez?
Je m'y retrouve et ça a été mon choix professionnel. Le fait d'avoir une pédagogie de projet, le fait de pouvoir travailler dans les marges, on a des référentiels et on les adapte de façon réaliste, concrète, au profil des jeunes gens avec qui on travaille. Et surtout, on est sur la pédagogie nouvelle, même si le terme déjà est ancien.
La pédagogie nouvelle, est-ce que vous pouvez réexpliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit et de quoi il s'agit également pour vous en lycée avec des élèves entre la seconde et la terminale, même parfois entre la quatrième et la terminale.
La quatrième et le BTSA.
Et même, oui, puisqu'on peut poursuivre ses études supérieures en lycée agricole.
Alors, la pédagogie nouvelle, c'est un terme qui est apparu dans nos référentiels il y a plus de 50 ans, quand l'enseignement agricole a émergé avec la formation agricole. Et ce n'est plus aujourd'hui une pédagogie nouvelle, puisque Maria Montessori, Freinet, etc. sont entrés dans les grands classiques d'une pédagogie active. Mais on parle aujourd'hui de pédagogie nouvelle lorsque, par exemple, pour l'éducation média, on va proposer aux élèves en pluridisciplinarité avec des enseignants de viticulture ou d'agroéquipement de travailler sur une chaîne YouTube qu'on va créer, parce qu'analyser un contenu médiatique, ça passe par la pratique de ce média.
C'est toujours une pédagogie du faire. Alors, ça ne concerne pas que les médias. Ça veut dire aussi que quand vous abordez la culture, l'art, vous plongez les élèves dans des activités artistiques.
Oui, et nous ne sommes pas des professeurs d'art plastique. Nous sommes des enseignants animateurs, ce qui veut dire que le dispositif couvre la vie que nous menons au lycée. On peut avoir un atelier de pratique artistique en dehors de son temps scolaire. On peut avoir un atelier de pratique artistique durant son cursus scolaire. Mais on passera toujours par une pratique avec un artiste. Donc, vous avez parlé de Charles Frégé, qui est une des figures.
Voilà,
qui
il va témoigner longuement en fin d'émission. Voilà.
Et forcément, nous sommes dans le rapport à la réalité. On n'est pas en train de regarder des tableaux projetés sur un tableau numérique. On va être dans le faire. En tout cas, on va côtoyer les œuvres par l'immersion, par le sensible.
on va demander à un élève, un ancien élève, ce qu'il en pense. François Tabuy, que vous a apporté ce type d'enseignement, ces pédagogies? Alors, je ne sais pas si vous les avez trouvées alternatives, mais par exemple, l'ESC, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, alors que vous êtes éleveur? Et voilà, racontez-nous. Comment ça a compté dans votre parcours?
Voilà, moi j'ai fait 3 diplômes de l'enseignement agricole. J'étais d'ailleurs pas, moi, issu du milieu agricole. Donc je suis devenu agriculteur suite à la formation notamment. Et c'est vrai que bon, on était tous passionnés de vaches, de culture, etc. Et on traînait un peu parfois les pieds en rentrant dans les cours de SC parce qu'on comprenait pas au départ vraiment pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer ce message-là, moi, aux jeunes de l'enseignement agricole. C'est que aujourd'hui, dans mon métier, j'ai l'impression que c'est finalement les compétences qui me servent le plus au quotidien dans mon métier d'agriculteur. Alors, pourquoi? Parce que les compétences techniques, bien sûr, elles sont essentielles. Même si moi, ça fait 15 ans que je suis sorti des lycées agricoles.
Voilà, je rappelle que vous êtes éleveur.
Je suis éleveur, oui. Donc, on transforme aussi à la ferme. Donc, beaucoup de choses techniques. On est très accompagnés. Mais ce qui me sert le plus sur l'exploitation, comme 2/3 des exploitations agricoles aujourd'hui sont sous forme sociétaire. Les gens ne travaillent pas tout seuls, contrairement à l'idée reçue. Le plus gros enjeu sur mon exploitation avec mes associés, c'est d'abord l'humain. Et en fait, les compétences de relationnel qu'on travaillait en fait en éducation socio-culturelle, finalement, c'est pour moi la clé de réussite de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur projet économique, on peut avoir le meilleur projet technique. Si les 3 associés n'ont pas un projet commun, ne le font pas vivre, de la même manière, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi la clé de réussite de l'exploitation. Bien sûr l'économique, mais c'est d'abord l'humain. Et de la même manière, moi, le devenir de l'exploitation, le débouché de l'exploitation, c'est du collectif. Ça peut être une coopérative. Donc, être capable avec d'autres agriculteurs de mener ce projet. Moi, je fais partie d'un magasin de producteurs. On est 15 associés. Il y a 15 associés à tenir ce projet économique ensemble. Forcément, c'est de l'humain aussi. C'est être capable de s'écouter, être capable de mener à bien un projet ensemble. Voilà,
ressemble à ce que vous avez fait en ESC?
Et effectivement, c'était des cours d'argumentation, des cours d'écoute, des cours, enfin, voilà, des choses assez, assez concrètes, des compétences où moi, j'étais venu à l'école pour les vaches. On parlait de choses comme ça, je comprenais pas. Et aujourd'hui, voilà. Un autre sujet, c'est la communication. Je crois qu'aujourd'hui, les médias nous traitent parfois, enfin, traitent beaucoup le sujet de l'agriculture par le mauvais côté. On donne soit le problème de la crise agricole, soit la société nous regarde un peu de travers. Pour les agriculteurs, aujourd'hui, c'est essentiel d'être non pas capable uniquement de bien faire son métier, mais de bien savoir communiquer sur son métier. Alors, le salon, c'est une bonne occasion, mais d'être capable de communiquer. Je vais vous donner un exemple quand même, parce qu'on est aussi dans l'enseignement agricole. On a, sur mon département en Haute-Savoie, plusieurs établissements agricoles et on a un projet d'alpage école, en fait, où pour que les enfants, enfin les élèves, c'est vraiment une spécificité, puissent découvrir cette spécificité-là. Et alors, on n'y fait pas que du technique, on n'apprend pas juste le pâturage, on n'a pas juste l'ambition d'y apprendre finalement le fromage, mais on a surtout aussi l'ambition dans les alpages. Il y a énormément de randonneurs, de touristes, mais que les élèves fassent aussi de l'ESC. C'est une partie de l'exploitation agricole de cet établissement, mais c'est qu'on puisse aussi communiquer sur comment on produit, comment on le fait. Et ça, cet aspect communication, pour moi, il est essentiel aujourd'hui et c'est la preuve un peu au salon.
Vous m'avez dit, quand on s'est parlé avant de l'émission, quand on est agriculteur aujourd'hui, c'est très important de savoir parler.
Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est l'une des compétences essentielles. D'une part, il faut vendre ses produits, donc il faut être capable de se vendre, pas uniquement les produits, mais en tout cas la démarche personnelle d'une exploitation. Donc je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Mais là aussi, je crois que l'agriculture, elle est souvent sur le banc des accusés aujourd'hui, parce qu'on a des concitoyens qui sont parfois un petit peu schizophrènes, qui à la fois adorent l'agriculture, mais parfois la méconnaissent et la jugent un peu trop vite sur des sujets parfois très rapidement traités dans les médias. Et on a besoin aujourd'hui de réexpliquer. Alors on ouvre nos portes, moi je fais partie du réseau Bienvenue à la ferme par exemple, on accueille, moi je fais des visites aussi d'exploitation, alors c'est aussi pour nous une activité, au-delà de la production, mais c'est aussi l'occasion de parler, d'expliquer, de communiquer sur le métier et ça nous paraît essentiel parce que demain je suis sûr que voilà, un randonneur ou un touriste qui est en vacances dans mon beau département finalement, il vient sur l'exploitation au-delà de prendre un reblochon, quand il en retrouvera à Paris notamment, il saura ce qu'il y a derrière, il saura que c'est d'abord des aventures humaines et une aventure de territoire. Donc en fait, voilà, savoir communiquer, c'est des choses qu'aujourd'hui, 15 ans après, je me rends compte finalement ce qu'on faisait en ESC, en éducation socio-culturelle, c'est essentiel au quotidien de ma vie de chef d'entreprise. Quoi.
Vous buvez du petit lait, Michel Lision, en tant qu'enseignante.
Je pense que je vais diffuser l'émission l'ensemble des étudiants et des élèves.
C'était le but. Plus sérieusement, l'interdisciplinarité, en quelque sorte, dont a parlé François Tabuis, quand il a dit on peut à la fois être dans une activité pastorale, mais en même temps, pourquoi pas donner des indications à des randonneurs. Est-ce que ça, c'est au cœur, je le sais, de l'ESC, et c'est très présent dans l'enseignement agricole. Pourquoi ? Quelle utilité selon vous ? Et comment, peut-être en tant qu'enseignante, vous expliqueriez-vous que ça pose tant de difficultés à l'éducation nationale ?
Alors, on parle déjà de pluridisciplinarité. Je me permets de revenir sur le mot
exact. C'est légèrement différent.
Puisque nous travaillons en module, le module avec un référentiel qui a des objectifs de formation qui s'adaptent au territoire. Le même module, enfin le même objectif, le même référentiel en Normandie et en Savoie, Haute-Savoie, ne va pas être appliqué de la même façon parce que les formations, les jeunes, le territoire sont différents. Que le dialogue entre les enseignants d'agronomie, moi je travaille dans un lycée viticole et agricole, et je travaille avec des professeurs de machinisme agricole, de viticulture et d'agronomie. On va être en lien avec des élèves en bac pro par exemple, ou en BTS, qui n'ont évidemment pas le même projet, et pourtant de manière pluridisciplinaire, on va amener et appliquer ça demande un gros temps préparatoire. À amener les élèves à être dans nos champs respectifs, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, dans nos champs respectifs sur un objectif qui prenne sens. Est-ce que j'ai bien répondu ? Est-ce que c'est clair ?
Je crois que ce qui ressort, c'est que le projet fait prendre du sens à ce qu'on fait et à l'enseignement, à l'éducation que vous cherchez à donner à vos élèves et à vos étudiants. Sur l'aspect pluridisciplinaire, je voudrais comprendre à quelle discipline fonctionne avec quelle discipline dans l'enseignement agricole, comment ça marche.
Alors, il n'y a pas une recette, puisque ça dépend de la filière,
ça dépend du
cursus. Un exemple concret. Nous pouvons, par exemple, travailler... On va prendre un bac général, enfin un peu général, qui s'appelle le bac STAV, qui est un bac avec une entrée agronomique. Et on va, de manière pluridisciplinaire, arpenter un territoire avec une problématique. Il y aura une entrée développement durable, donc l'agronomie, l'ESC, par exemple, parce qu'on a une sensibilité à certains aspects, l'histoire géographie, parce qu'on hérite dans son territoire de son histoire et de sa géographie. Et nous allons, et la biologie bien sûr, et nous allons tous les enseignants travailler autour d'une problématique pour emmener les élèves tout au long de l'année à avoir une vision globale des choses et qui soit pluridisciplinaire.
Je crois que là c'est parfaitement clair. Philippe Vincent, tout à l'heure François Tabuis parlait du regard que portent les médias et peut-être la société sur le monde agricole. Alors une petite mise en cause, mais c'est pas ça que je veux relever. C'est finalement, je voudrais savoir si l'enseignement agricole tient compte des crises qui traversent le monde agricole, le monde paysan, des débats qu'il traverse, et puis pas seulement le monde paysan, d'ailleurs la société, l'agriculture extensive, l'arrivée du bio, ou en tout cas son extension, les pesticides, la souffrance animale également. Est-ce que ce sont des sujets dont on parle dans l'enseignement agricole et puis en éducation socioculturelle ?
Ce que je dirais, c'est qu'un établissement agricole, un lycée agricole, c'est un univers très ouvert sur son territoire. Et donc, c'est un lieu de débat. Et c'est un lieu de débat à l'intérieur de l'établissement, c'est-à-dire entre les jeunes qui sont en formation scolaire, donc qui sont les adultes en formation professionnelle, et les apprentis. Donc, ça fait vraiment des échanges entre des univers assez différents. Ça, c'est à l'intérieur de l'établissement. Et puis, c'est très ouvert sur les agriculteurs qui sont à l'extérieur, qui peuvent accueillir des stagiaires. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange considérable. Alors, au cours des dernières années, il y a eu un effort important avec la prise en compte de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi ? C'est concilier une performance économique avec une performance écologique. Et c'est compliqué à un moment où on a une variabilité climatique et une variabilité des cours qui perturbent considérablement les agriculteurs. Donc là-dessus, il y a eu vraiment des avancées tout à fait importantes qui ont permis de rénover complètement les référentiels de diplôme et faire en sorte que les jeunes, maintenant, intègrent complètement ces problématiques. Et aujourd'hui, il faut savoir que si en France, on est à peu près à 5% d'agriculture biologique, sur les près de 20 000 hectares des exploitations agricoles, on est à 20%. Donc ce qui veut dire qu'il y a un véritable effort qui est mis sur ces nouvelles méthodes de produire pour justement voir dans quel cas elles s'adaptent. Et puis dernier point qui me paraît très important, François Sabouy fait du reblochon, et du très bon reblochon, ce qui lui a permis de devenir président des jeunes agriculteurs sans aucun doute, en plus de sa capacité qu'il a hérité de l'ESC. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent dans les lycées agricoles. Vous l'avez vu hier, il y a énormément de produits qui sont élaborés, de produits transformés. Et donc, il y a ce lien à la filière qui me paraît aussi très, très utile pour justement expliquer son produit et pour apprendre également à échanger avec les consommateurs, avec les citoyens qui regardent et qui sont ouverts sur l'établissement.
Alors, si je l'ai vu hier, c'est parce que nous nous sommes vus hier dans une journée consacrée à l'enseignement agricole. Ça me permet de le préciser. Michel Lision, vous, en tant que professeur d'ESC, est-ce que vous en parlez avec vos élèves de ces crises, ces inquiétudes qui traversent la société à l'endroit du monde agricole et qui traversent également le monde agricole ?
On n'aura pas d'objectif spécifique pour en parler. Par contre, il n'y a jamais de sujet tabou. Il y a des temps d'expression libre vraiment riches. Nous n'avons pas de réticence à évoquer des éléments qui sont critiques, bien au contraire, puisque l'enseignement et l'animation socioculturelle sont bien, on le dit, le poil à gratter du système d'éducation agricole. Et tout à fait spontanément, les élèves ont parole libre et les professionnels de SC, jamais nous ne serons le baillon de quoi que ce soit.
J'espère bien. Est-ce qu'il peut y avoir un certain décalage entre vous, enseignants, avec un mouvement syndical fort hein, dans l'enseignement agricole, avec des idées sur l'agroécologie qui, pour les syndicats majoritaires, n'est pas assez présente, je dois le préciser. Et puis, le monde rural dans lequel vous pouvez évoluer et avec lequel vous pouvez avoir des différends, y compris idéologiques.
Ce n'est pas exclu. Enfin, il n'y a vraiment pas de tabou. Ça dépend du territoire. Ça dépend de la réalité du territoire. Moi, je travaille sur un territoire, par exemple, en viticulture, où il y a une très, très grande dynamique pour la viticulture biologique et en biodynamie. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Il y a des agriculteurs qui sont fermement opposés, d'autres qui en sont les tenants. Et ce qui compte pour nous, c'est d'organiser un débat où on sait s'écouter. Je crois que c'est ça le levier de l'éducation socioculturelle. C'est pas de donner raison à l'un ou à l'autre, c'est d'apprendre à s'écouter, puisqu'on parlait de la communication interpersonnelle, et c'est un des leviers de notre enseignement, enfin de notre éducation.
François Tabuy, vous vouliez réagir sur ce sujet ?
Oui, enfin, tout à l'heure, je parlais de la crise et de la mauvaise image. Et à l'inverse, je crois que quand on va dans les lycées agricoles, et moi j'ai encore beaucoup de stagiaires sur l'exploitation qui en viennent, hein, c'est aussi un formidable message d'optimisme. Parce que je crois que c'est surtout d'abord des jeunes qui sont là par passion, en fait. Hein, des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui connaissent bien sûr, parce que comme tout le monde, ils entendent et ils le vivent parfois dans leur campagne, dans leur famille, ou la question de la crise. Mais je crois que c'est des jeunes qui sont là pour regarder l'avenir. Et je crois qu'ils développent tous, hein, quel que soit leur milieu d'origine, en fait, un vrai esprit critique, en fait, hein, qui leur permet d'aborder le métier, j'ai envie de dire, bien sûr en chef d'entreprise, avec des choix stratégiques, hein, sur le mode de production, sur le mode de commercialisation, mais aussi en tant que citoyen. Hein. Moi, j'étais dans un lycée public, hein, le lycée agricole de Sibens, dans l'Ain, qui était proche de Lyon, en fait. Hein. J'ai fait un bac scientifique, en fait, on était très peu du milieu rural dans ce bac-là, mais à côté de, ensuite j'ai fait un BTS production animale, donc des gens qui étaient là vraiment par passion et par envie de la technicité. Il y avait un BTS analyse conçu du système d'élevage, alors c'est les plus agricolo-agricoles de l'exploitation. Il y avait des technico-commerciales, il y avait aussi un bac pro canin, donc avec des jeunes qui avaient des horizons et des projets tout à fait différents. Et je crois que tout ce petit monde, on cohabitait, on vivait ensemble au-delà de l'école, mais dans les associations du lycée. Et je crois qu'on avait du coup forcément beaucoup de débats et beaucoup de rencontres, et ça cassait finalement les stéréotypes. Et je crois que l'enseignement agricole il fait ça, et il fait ça très bien, en fait.
Et est-il victime de stéréotypes, l'enseignement agricole? Quand on dit qu'on fréquente un établissement agricole, ça m'a été rapporté par des élèves, c'est aussi une orientation, on l'a dit, qui peut avoir lieu très tôt, en quatrième et même en seconde, c'est pas très très tard dans une vie, une orientation qui parfois se fait en raison de difficultés scolaires, il faut être très clair là-dessus. Il y a une image qui n'est pas toujours très heureuse.
Alors, Oui, c'est vrai. Moi, je veux porter ça en faux, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les jeunes qui viennent là, c'est des jeunes qui l'ont voulu, qui l'ont choisi en fait. Hein. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent aussi d'autres. Alors, on ne forme pas que des agriculteurs dans les milieux. Il y a énormément de métiers autour de l'agriculture et du rural. Et je crois que du coup, c'est vraiment un des secteurs qui recrute le plus aujourd'hui l'agriculture, faut le dire. Et moi, je crois que c'est bien que vous en parliez sur France Culture, voilà, sur une radio beaucoup plus générale, hein, parce qu'une fois de l'agriculture et de l'enseignement, parce que souvent les conseillers d'orientation dans les collèges de l'éducation nationale ne connaissent pas, ne parlent jamais, alors que moi-même, hein, j'étais passionné d'agriculture, je suis passé de l'éducation nationale vers l'enseignement agricole et je me suis épanoui quoi, complètement, et je vois beaucoup de gamins, parfois des gamins qui sont en difficulté, hein, moi j'ai des gamins qui sont passés par certains cursus et je les vois en 2-3 ans en fait complètement évoluer, et derrière des jeunes qui, je pense, dans certains environnements ce serait pas épanoui, et là ils sont dans un milieu qui leur plaît, avec un enseignement appliqué, avec du pratique aussi, avec des matières, on parlait de pluridisciplinarité, et moi on voit des jeunes qui s'éclatent et qui derrière n'ont pas de problème d'emploi quoi.
Je rappelle que vous êtes agriculteur, hein, vous n'êtes pas délégué du ministère de l'agriculture,
non,
pour
pas
parler
du tout,
de ce
mais
sujet, mais vous
il faut vraiment faire la promotion donnez... quand on voit aujourd'hui quelque part le problème de vocation un peu de beaucoup de jeunes. L'agriculture, c'est un métier de passion, c'est un métier où on s'épanouit, où il y a de l'emploi, donc voilà.
Mais... Alors Philippe Vincent, si je comprends bien, l'éducation nationale vous oublie, vous méconnaît, vous discrédite. Qu'est-ce qui se passe avec les conseillers d'orientation, peut-être les enseignants aussi, qui ne pensent pas forcément à conseiller ces filières à des jeunes qui pourraient en avoir envie.
C'est vrai qu'on est petit, je dirais, et en plus on est dans le monde rural, donc on n'est pas toujours très visible, et c'est pour ça que c'est très important.
Il y a des lycées en ville, cela dit, agricoles.
Périurbains. Zone périurbaine, c'est-à-dire qu'ils ont été rejoints par la ville, mais ils sont quand même. Notre vocation, c'est quand même de former des agriculteurs, même si on a étendu le champ. Mais je pense que ce qu'a dit François Tabu est important. C'est des métiers où les jeunes sont passionnés, mais il y a aussi des jeunes qui deviennent passionnés, parce qu'au début, ils ont pu avoir des difficultés dans l'éducation nationale, et là, grâce à cet enseigner autrement, ils ont pu retrouver confiance, retrouver un projet. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'au début, on n'a pas nécessairement les meilleurs élèves de l'enseignement, mais à la fin, on arrive à leur donner des taux de taux de succès au diplôme qui sont très satisfaisants, et surtout des taux d'insertion professionnelle qui sont
élevés. Est-ce que vous pouvez nous les donner, ces taux ?
C'est à peu près 85% pour les taux aux examens et 90% en termes d'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre dans l'enseignement agricole, des fois, il rentre en position d'échec, et comme on l'a dit, parfois, 2 ou 3 ans après, il est épanoui, il a un projet, à la fin, il a un métier, et surtout, une insertion dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie sportive. Et ça, je crois que c'est beaucoup de témoignages très intéressants. Et je reviens à la journée qu'on a fait hier au salon d'agriculture, il y avait des jeunes qui étaient absolument étonnants de vie et de confiance, et quand ils sont allés, je dirais, peut-être que c'était pas nécessairement le projet de leur vie.
Voilà, vous avez parlé des filières sportives, puisqu'il y a à la fois les filières hippiques, et puis je crois que l'enseignement agricole est extrêmement important en termes de club de rugby. Marie-Caroline Missia.
Une question en vous écoutant. On se demande pourquoi il n'y a pas plus de porosité entre l'enseignement agricole et l'éducation nationale. Parce que pourquoi l'éducation socioculturelle n'est pas proposée sous cette modalité dans l'éducation nationale ? Dans l'enseignement agricole, les établissements sont assez autonomes depuis des années, alors qu'aujourd'hui, ça fait encore débat. C'est vraiment une question très sincère que je ne m'explique pas en vous écoutant.
Et j'ajoute que cette question m'a été posée par des enseignants via les réseaux sociaux, surtout pour l'ESC, qui est une discipline que d'aucuns voudraient voir arriver dans leur collège et lycée. Michel Lysion ?
Alors, je ne sais pas pourquoi nous avons si peu d'élèves orientés vers nous, mais j'ai quelques pistes de réponse qui sont des témoignages de parents, puisqu'à chaque réunion parents-prof, il y a des paroles issues de la vraie vie. Eh bien, nous avons beaucoup de parents qui nous disent « Ah, mais je ne regrette pas de m'être battu pour que mon enfant vienne dans votre lycée, qu'est-ce qu'il est heureux ?» Enfin bon, moi, je ferai toujours l'apologie de l'espace où je travaille et où je vis, je dirais. Vraiment, ce qui a été dit de positif sur les lycées agricoles, j'y souscris. C'est pour ça que j'aime y vivre et y travailler. En tout cas, on a beaucoup de parents qui nous disent « Au moment où on a exprimé notre désir d'inscrire notre fille ou notre fils en lycée agricole, nous avons eu les pires difficultés. On nous a fortement déconseillé d'emmener notre enfant chez vous. » Et moi, je l'ai entendu de très très nombreuses fois. Et je pense qu'il y a une méconnaissance des systèmes d'orientation, même si nous avons des liens rapprochés avec les CIO de terrain, avec qui nous avons de très bonnes relations.
Les CIO, donc, ce sont les centres
d'orientation, d'information et d'orientation.
Je vous laisse le dire.
Merci. Et par contre, de manière globale, quand un enfant est en collège ou en lycée, lorsqu'il exprime son désir de venir dans l'enseignement agricole alors qu'il n'est pas enfant d'agriculteur, on lui déconseille fortement. Je l'ai entendu plus d'une fois.
Et pourquoi ce qui marche, donc par exemple l'éducation socioculturelle, par exemple l'autonomie, n'est pas expérimenté dans l'éducation nationale? C'était ça, cette porosité, là, c'était ça que
je crois que c'est plutôt
dire.
Philippe Vincent qui peut nous donner son idée sur la question.
Moi, je dirais qu'il y a déjà des points d'évolution, parce que la ministre de l'Éducation nationale avait indiqué que dans la réforme du collège, certaines initiatives, notamment en termes de projets interdisciplinaires, avaient été inspirées de l'Éducation nationale. Moi, je sais qu'aux 50 ans de l'éducation socioculturelle, la ministre de l'Éducation nationale était présente. Et je pense qu'il y a donc des éléments qui percolent. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'allers-retours qu'on ne le pense. Donc, je pense qu'il faut avoir cette idée-là. En même temps, notre particularité aussi, c'est qu'on a près des deux tiers des élèves qui sont internes. Donc ça permet aussi beaucoup de choses, parce que la vie de l'élève et la relation entre l'élève et le professeur ne s'arrête pas à la fin du cours, mais se poursuit, je dirais, au-delà, dans des projets. Et ça, c'est rendu possible par l'internat. C'est rendu possible aussi parce que c'est des petits établissements. 300 élèves, les enseignements agricoles.
C'est peut-être ça la bonne idée.
C'est un gros bahut. Et puis, on est dans le monde rural. Donc, il y a peu de jeunes. Donc, c'est des petites classes aussi. Donc, quelque part, il y a une dimension d'un enseignement où on a une relation personnelle entre l'élève et son professeur. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la qualité et l'intérêt pour les familles et pour les jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes, et de plus en plus, parce que de jeunes dont les parents ne sont pas agriculteurs, c'est 90% des jeunes aujourd'hui qui sont pas fils d'agriculteurs et qui sont intéressés par ces métiers, les métiers de l'agriculture en tant que tel, mais aussi les métiers verts, les métiers de l'environnement, les métiers des territoires ruraux. Et c'est aussi un élément pour dire aux territoires ruraux qu'ils ont un avenir et qu'il n'y a pas que les métropoles qui peuvent offrir des beaux métiers et des vies passionnantes.
Alors, vous avez parlé de l'internat. Je crois que c'est un point très important. Une grande majorité des élèves sont internes dans les maisons familiales rurales et les lycées agricoles. Qu'est-ce que ça apporte? Et aussi en termes d'ESC, parce que là aussi, l'animation relative à ces cours, mais là, on sort du cours, mais vous gardez une fonction d'animatrice même après la classe. Et puis, ce sont les élèves qui vont s'en charger. Michel Lision, en fait, l'éducation continue un petit peu dans tous ces moments de l'internat?
Elle continue surtout dans tous ces moments, puisque le projet d'éducation, le projet qu'on a pour le jeune adulte dans sa place de personne et de citoyen. Et on va être, par exemple, dans un temps, dans l'espace de cours, on va être dans la communication interpersonnelle, ou l'éducation média ou l'éducation artistique. Et puis l'après-midi, on va être au foyer, on va réunir l'ALESA, l'association des lycéens.
Le foyer, c'est
le foyer socioculturel, ouais, qui est une agora, un lieu de vie où on va jouer au baby, on va ouvrir son club de tricot ou son club de musique. Enfin, c'est laissé à l'initiative des élèves. C'est l'espace où on va rappeler que ce soir, il y a une sortie théâtre et on va tous partir découvrir une pièce de théâtre. C'est l'endroit où on va faire des crêpes à 5 heures le mercredi parce qu'il fait froid dehors et qu'on rentre de la ferme. Enfin, c'est des lieux où on vit.
C'est le foyer. François Tabuy, un dernier mot sur cette dimension, éloignement de la famille, internat, pour vous, vos anciens camarades. Qu'est-ce que ça a représenté en tant qu'élève?
En tant qu'élève, c'était au tout début une appréhension, mais qui est très vite disparue, je crois, dès les premières semaines d'internat. C'est surtout aussi plein de camarades avec qui on est tous repartis dans nos territoires différents, des fois très éloignés, des super relations qu'on a encore, et quelque part aussi, j'ai eu ensuite un passé, enfin, un syndical où ça nous a beaucoup ouvert aux réalités des autres, quoi. Et souvent, d'ailleurs, le mercredi, quand on était plutôt en BTS avec le permis, on faisait le tour des exploitations des uns des autres, et ça permettait aussi de s'ouvrir un peu aux réalités. Je crois que c'est aussi l'apprentissage de la vie commune et de la camaraderie, tout simplement. Et je crois que c'est vrai qu'on part la semaine au lycée agricole, c'est plus que finalement aller juste des cours, c'est une vie commune, c'est quelque chose d'extrêmement sympathique, et je crois que tous les élèves qui passent en lycée agricole, les meilleures années en général, c'est celles-là, quoi. Et on s'en rappelle encore, quoi.
Bon, en tout cas, on a compris, vous faites une belle promotion pour l'enseignement agricole. J'espère qu'on aura permis de le faire découvrir plus largement aujourd'hui. On va continuer à parler de l'ESC avec mon dernier invité. Je l'ai enregistré mercredi dernier à la radio. J'ai enregistré cet entretien donc avec le photographe Charles Frégé. Mais d'abord, une courte pause musicale.
Écoutez Rue des Écoles sur France Culture avec Louise Touré.
Stand around his doors. Liberty, I ain't gonna work for Maggie's Bar no more. Well, I try my best to be just like I am, but everybody wants me to be just like them. They sing while I slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Donc je le disais, j'ai interviewé un photographe dont j'admire beaucoup, beaucoup le travail, Charles Frégé. Il est passé par l'enseignement agricole. Il va nous parler de l'ESC, l'éducation socio-culturelle, et nous permettre d'aborder davantage la dimension artistique et culturelle de ces dispositifs. On l'écoute. Charles Frégé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous exposez dans de nombreux pays, en France également. Vous travaillez sur les communautés et leurs costumes à travers des portraits. Sur ces portraits, on voit des tenues, des vêtements de travail, des tenues d'apparat, des costumes traditionnels ou même rituels. De nombreuses séries, on peut les voir sur votre site, Charles Frégé. Mais si je vous ai invité aujourd'hui, c'est aussi parce que vous êtes passé par l'enseignement agricole. Comment on passe de l'enseignement agricole au métier de photographe ?
Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. J'étais dans un cursus agricole parce que je suis fils d'agriculteur, parce que j'étais sûrement destiné à reprendre la ferme de mon père. Et puis en parallèle à ça, je peignais dans ma chambre d'adolescent. Et l'entrée au lycée agricole a été un peu tumultueuse, si j'ose dire. J'ai assez vite compris que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Et ça a ouvert la porte à vraiment des recherches, en fait, pour pouvoir sortir de ce milieu et faire autre chose.
Quel a été le rôle de l'EMC, dont on a parlé pendant cette émission, dans ce parcours, cet enseignement socioculturel? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, puisqu'on y parle beaucoup des pratiques artistiques?
Quand je suis arrivé dans ce lycée agricole, il y avait toutes ces matières techniques, pas seulement techniques, parce qu'on a un cursus général, mais il y avait ces matières techniques agricoles, et qui pour moi étaient assez étouffantes. Et tout d'un coup, on avait 2 heures ou 1h30 d'ESC par semaine. Et là, j'ai rencontré une prof qui a dit si vous voulez faire un projet culturel, il y a un dispositif annuel qui s'appelle un PEA. Mmh. Et vous pouvez lancer votre projet culturel et il fera partie de votre note au bac, si j'ose dire. Et puis, je me suis lancé là-dedans.
Et vous y êtes revenu après avoir entamé votre carrière de photographe. Mais d'abord, vous avez fait un travail sur les lycéens et les lycéens professionnels et leurs tenues.
Ouais, d'abord, ce qui est important, c'est que j'ai été au bout de mon enseignement agricole. Ça veut dire que j'ai pas changé de filière. J'ai fini avec un BTS.
Oui.
Et puis ensuite, j'étais au Beaux-Arts. Et dans ce moment où j'ai commencé à apprendre la photographie, je suis resté de toute façon en contact avec le milieu et notamment avec certains de mes profs de l'enseignement agricole. Un des premiers projets que j'ai développé, c'était d'aller travailler à Poligny dans une école d'industrie laitière. Et puis ensuite, la série qui s'appelle Bleu de travail, que j'ai réalisé dans plein d'enseignements techniques et aussi agricoles.
Pourquoi avez-vous voulu photographier ces jeunes dans ces tenues de travail? Aujourd'hui, l'enseignement professionnel, c'est aussi une certaine partie de la jeunesse. Ce n'est pas toujours une orientation qui est choisie. Ce ne sont pas les élèves considérés comme étant les meilleurs. Je n'émets pas de jugement de valeur. C'est parfois s'orienter vers des métiers relativement difficiles. Pourquoi vous avez voulu les photographier, ces jeunes?
J'ai voulu les photographier parce que je travaillais de toute façon sur l'idée du vêtement, que ce soit sportif ou militaire, religieux. Et là, le vêtement de travail, l'apprentissage, c'était vraiment intéressant parce qu'on se retrouve face à des personnes qui sont dans une sorte de mue, qui portent un vêtement presque de transition. Et on voit dans la série, par exemple, des Bleus de travail, comment ces jeunes apprennent en fait à rentrer dans la peau de leur métier. Il y a parfois des tenues de travail trop petites. Il y a toujours ce rapport à l'adolescence aussi, où on voit des vêtements de mode adolescentes qui sont portés en parallèle à ces vêtements de travail. Et ça fait une dialectique qui est assez riche visuellement.
Alors, le vêtement, ça permet d'entamer beaucoup de réflexions sur l'identité, sur l'identité professionnelle aussi, vous venez de le dire. Et vous êtes revenu, je l'ai déjà évoqué, dans l'enseignement agricole, dans le cadre de l'EMC, pour travailler avec des classes sur cette notion de costume.
Oui, alors j'ai fait ça plusieurs fois en fait. J'ai reçu plusieurs invitations et même cette année, je continue un projet avec un autre lycée agricole plutôt dans les montagnes, cette fois pas loin de Chambéry. C'est toujours intéressant parce que le temps de l'ESC, c'est un temps vraiment de liberté. On y apprend des choses artistiques, on y apprend à communiquer, on y apprend à parler en public. Dans le milieu agricole, par exemple, c'est fondamental de savoir parler en public. Les gens qui apprennent dans l'agriculture souvent vont se retrouver dans des syndicats agricoles ou dans des meetings dans lesquels ils doivent prendre la parole. Et souvent, on sous-estime un peu ce milieu-là qui a une polyvalence vraiment énorme. Et à partir de là, l'ESC est vraiment là pour leur ouvrir un peu les chakras, quoi. Donc, on va se retrouver dans un cours à faire du théâtre, dans un autre à faire une improvisation. On va dessiner, on va peindre, mais on va aussi visiter la maison de la radio. Je suis venu visiter la maison de la radio, j'avais 15 ans en fait, avec un prof de SC. On va aller pour la première fois de sa vie au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et c'est un moment d'ouverture. Alors forcément, ça signifie pas que le milieu agricole est un milieu qui a pas d'ouverture. Mais on n'accède pas aux mêmes choses en fait. La plupart des élèves dans les lycées agricoles vivent à la campagne. Donc ça veut dire que la proximité au musée ou à la ville, c'est un vrai problème. Et tout d'un coup, aussi les profs de sociaux, on les appelait les profs de sociaux, ils sont aussi là pour nous emmener au théâtre, si j'ose dire, pour nous emmener en ville et voir autre chose. Et moi, ça m'a appris énormément.
Et je reviens sur votre travail avec les élèves, sur aussi le vêtement de cérémonie d'inspiration baroque. Vous avez travaillé avec une artiste, Gwen van den Eijnde, si je prononce bien son nom, en 2015. Un travail sur un vêtement, un costume qui travestit totalement celui qui le porte, puisque c'est une autre époque. Qu'est-ce que vous vouliez raconter comme histoire avec les élèves?
Il y a eu deux années dans le même lycée, lycée agricole du Neubourg. En fait, on a fait deux projets en Normandie. Le premier avec Raphaël Lamy, qui est costumière, donc plutôt dans le théâtre. La deuxième avec Gwen van der Heek, qui est un sculpteur, performeur, qui fait des costumes. Et lui est vraiment, sa partie, c'est vraiment la culture baroque. Ça a été vraiment deux expériences différentes. La première, de faire une réflexion avec un groupe d'élèves de classe sur le vêtement de travail et, disons, son évolution, parfois même fictionnelle. Et dans le deuxième projet, de travailler sur presque du travestissement, en fait, à partir du lin, puisque là, il y avait la possibilité d'utiliser toute cette matière du lin brut ou du lin travaillé en tissu, etc. Et de confectionner des costumes qui évoquaient effectivement une vraie fantaisie. Le premier projet, en fait, a marché tellement fort qu'il a été sélectionné pour le prix de l'audace et qu'il est arrivé deuxième prix. Les élèves sont allés à la rencontre de François Hollande à l'Élysée en 2014.
Prix de l'audace artistique.
Ouais, prix de l'audace artistique. C'est étonnant, mais après, c'est assez drôle parce qu'on pourrait se dire que bon, voilà, c'est presque social, mais c'est réellement pas ça. C'est-à-dire qu'on arrive dans un lycée agricole à des résultats de création et de production qui seraient sûrement au-delà de ce qu'on pourrait faire dans un lycée de culture générale, simplement parce que il y a une volonté de la part du corps enseignant, mais aussi de la part des élèves, de montrer qu'ils savent faire autre chose et autrement. On peut voir des élèves se travestir, se maquiller. On peut voir des élèves qui habituellement font du machinisme agricole.
Mais on parle d'élèves qui sont très majoritairement des garçons.
Ouais, beaucoup de garçons. C'était un vrai problème pour moi. On devait avoir 5 filles dans ma classe. Mais ils s'ouvrent à des matières et à des techniques. On fait coudre des gens. Vous mettez un garçon de 16 ans derrière une machine à coudre, vous voyez, et ça c'est super riche. C'est là où cette petite bulle à l'intérieur de l'enseignement agricole est d'une grande richesse.
On change de regard.
On change de regard. Je ne sais pas si on change de regard. En tout cas, on fait un pas de côté. C'est un moment intéressant pour les élèves. Je ne sais pas si ça change leur choix, mais en tout cas, dans mon cas. Par exemple, moi, j'avais fait un projet d'exposition au Printemps de Bourges en 1993. J'allais avoir 18 ans et ça m'a forcément fait respirer. Et ça m'a aussi permis de finir mes études agricoles, en fait. Bizarrement, cette petite soupape, elle m'a permis de continuer. Après, j'ai décidé de faire autre chose. Changer le regard, je sais pas, mais en tout cas, il y a une ouverture d'esprit qu'on n'imagine pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait relever.
Ben on le relève aujourd'hui, et changer aussi de regard sur ces élèves de la part de la société. Vous avez dit être distingué par un prix, c'était important pour vous et les classes de terminale qui ont participé à votre projet. C'est changer de regard aussi sur l'enseignement professionnel.
C'était plus important pour moi d'avoir un prix. Moi, je suis petit-fils de boulanger et je suis aussi fils d'agriculteur. C'est l'idée qu'on doive faire des études générales, de la littérature, etc. Ça ne me correspond pas, en fait. Il y a même un moment où, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai essayé de rentrer dans une école de boulangerie. C'est-à-dire la culture dans le milieu technique et agricole, elle n'est pas inférieure à celle des milieux généralistes. Et ce n'est pas non plus des milieux qui manquent d'ouverture. Il y a des gens qui se destinent à être électricien ou boulanger. Et je ne trouve pas ça péjoratif, en fait. Et souvent, il y a cette espèce de justification. C'est-à-dire qu'on doit se justifier de vouloir être agriculteur. Pourquoi on voudrait être agriculteur ou pourquoi on voudrait être pâtissier ou mécanicien? Ce n'est pas des métiers secondaires, réellement pas.
Merci beaucoup, Charles Frégé. Je rappelle que vous êtes photographe. Derniers ouvrages en date, Yokai no Chima, célébration d'un bestiaire nippon. Ça a paru chez Actes Sud, également Wilderman. C'est publié chez Thames and Hudson. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous podcaster. Un grand merci à tous. Continuez. Un grand merci également à l'équipe technique qui a assuré la retransmission de l'émission aujourd'hui. Jean-André Gianecchini, Stéphane Beaufis, Laurent Serin, Roland Dodalex, à la réalisation évidemment Somanina, et au studio 158, Emmanuel Morse-Duncan. Je salue évidemment Laurence Genepin. En attendant que France Culture ne quitte le salon de l'agriculture, restez à l'écoute pour la prochaine émission. Nous serons également ici et nous dans Rue des Écoles. La semaine prochaine, nous parlerons des filières sélectives. Jouent-elles contre l'université ? Telle sera la question qui sera posée.